On va passer au volet santé et offre médicale. Selon l'INSEE, en 2018, 77% de la deuxième circonscription des Alpes-de-Haute-Provence avait accès à un médecin sur la commune. C'est 78% en France métropolitaine. Mais par contre, la santé ne se porte pas forcément bien dans les Alpes-de-Provence. Je ne prendrai qu'un seul exemple, Manosque, où les urgences ont annoncé une nouvelle fermeture de cette nouvelle nuit. On va mêler deux questions. Parce que, en effet, dans ce constat, il y a deux interrogations. Il y a tout d'abord les généralistes, Jean-Luc.
Oui, pour les généralistes, maintenant, faut-il les contraindre à l'installation dans les territoires ruraux à l'issue de leurs études de médecine?
Et ensuite, pour les spécialistes, il y a le numerus clausus qui n'existe plus aujourd'hui, mais il faut attendre 10 ans avant que certains bénéfices se fassent sentir. Alors, à la fois, pour les généralistes, est-ce qu'il faut contraindre l'installation? Et pour les spécialistes, on fait quoi en attendant? Léo Walter.
Alors c'est étonnant toujours de parler de contraintes. Je suis dans un corps professionnel où pendant des dizaines d'années, on prenait en charge les études. Moi j'ai un grand-père qui était instituteur.
L'éducation nationale.
Oui, l'éducation nationale, je suis instituteur, pardon. J'ai un grand-père qui était instituteur et qui lui a été pris en charge pour ses études à partir de la troisième. Et puis après, peu à peu, le niveau de qualification s'est élevé. Et puis, on a pris en charge les études des enseignants à partir du bac, et puis ensuite du bac plus 2, du bac plus 3 et aujourd'hui du bac plus 5. Malheureusement, cette prise en charge n'est plus exactement la même qu'avant. Et il se trouve qu'en contrepartie de cette prise en charge, les enseignants qui étaient diplômés devaient en retour 10 ans pendant un temps, puis après ça a été 5 ans de service à l'éducation nationale. Je vois pas en quoi c'est une contrainte, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens qui... Sans ce plan d'accompagnement, on n'aurait pas pu faire des études parce que on se rend compte que depuis que ça a disparu, par exemple, le corps enseignant a sociologiquement changé. On n'a plus, de moins en moins en tout cas, de classe populaire dans le corps enseignant et c'est dramatique. Nous, ce que nous proposons dans notre programme, c'est une des mesures de notre programme, c'est effectivement d'accompagner les étudiants en médecine de manière à ce que tous les étudiants de ce pays, même ceux qui n'ont pas les moyens familiaux, patrimoniaux de faire des études longues, puissent faire des études de médecine. Et effectivement, en échange de cet accompagnement, nous proposons qu'il y ait un temps, alors que fixé à 5 ans dans le programme, si mes souvenirs sont bons, mais un temps où ces médecins, qui seraient diplômés, sous la forme un peu de ce qui se fait pour l'internat, seraient à la disposition des services publics pour aller porter les forces là où elles sont nécessaires. Donc ce n'est pas une contrainte, c'est pas comme ça que je veux l'entendre. C'est comme la sécurité sociale, chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, et ben, ces gens qui auraient reçu selon leurs besoins, qui n'ont pas les moyens de faire des études, nous les accompagnons, y compris les autres.
Mais un accompagnement financier donc.
Un accompagnement financier, une prise en charge des études comme c'était le cas à l'école normale.
Avec l'obligation donc du coup de venir dans
avec
un
obligation en retour, avec un retour, c'est pas une obligation, enfin ce serait une obligation, mais c'est surtout un retour sur investissement pour l'État.
On peut voir que c'est une obligation, sinon les médecins viendraient dans le département des Alpes-de-Haute-Provence,
mais ce n'est
pas le cas aujourd'hui.
Mais tout à fait, mais c'est une obligation dans le bon sens du terme.
Christophe Castaner, cette question qui émane finalement des urgences de Manosque et de la difficulté de certains territoires d'avoir accès à des médecins généralistes, on fait quoi? On contraint à l'installation et qu'est-ce qu'on fait pour les urgences, notamment de Manosque?
Alors commençons d'abord très rapidement par rappeler quand même qu'on a fait un certain nombre d'avancées, parce que quelquefois il y avait même des médecins, il y avait même des opticiens, il y avait même des dentistes présents, mais les gens étaient écartés du soin, renonçaient aux soins parce que c'était très cher, et donc on a mis en place la prise en charge à 100%. Et juste pour illustrer ça, dans un département comme le nôtre, il y a 32% de ceux qui ont bénéficié de prothèses auditives ces deux dernières années, qui ont bénéficié de la prise en charge à 100%, parce que sinon ils ne l'auraient pas fait, 65% sur les soins dentaires, 20% sur les soins optiques. Et donc il y a des mesures qui avancent. Mais ensuite, il y a la question de la présence médicale. Vraiment, moi, le sentiment que j'ai, que le débat qu'on a sur obligation ou pas obligation est un faux débat. Le vrai problème que nous avons, c'est qu'on a organisé l'éradication de la présence médicale dans notre pays en 1971, quand on a mis en place le numerus clausus. Il y avait 27 500 étudiants en médecine en 1971. Au plus bas du numerus clausus, 1993, on est à 3750 étudiants en première année. Et on a organisé cette pénurie. Nous sommes face à la pénurie. Dès 2018, nous sommes arrivés aux responsabilités en 2017, on a supprimé le numerus clausus, on a une progression d'à peu près 20%, ça ne suffit pas. Et donc, il va falloir aller plus loin, il va falloir même revoir la forme d'études en médecine qui est très hospitalo-centrée et qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas rajouter des internes aux internes. Et donc, il faut améliorer encore notre système. Ça fait partie des grands chantiers que nous allons mettre en avant. Il faut valoriser aussi le travail des médecins avec un système de primes. Mais le vrai sujet n'est pas non plus l'obligation, parce que de toute façon, on a 90% du territoire national qui est en carence. Et donc, même s'il y avait une obligation, vous auriez un vrai sujet, c'est que est-ce que c'est Forcalquier, est-ce que c'est Manosque, est-ce que c'est Barcelonnette, ou est-ce que c'est les quartiers nord de Marseille, où il y a aussi de vraies difficultés. Voilà, il faut qu'on forme massivement des étudiants en médecine, et
comment
pas seulement.
Comment fonctionnerait cette prime ?
Ah mais elle existe déjà. Par exemple, à Manosque, on vient de faire rentrer Manosque en territoire prioritaire de soins. Un médecin généraliste qui s'installe à Manosque, non seulement il peut avoir une garantie de rémunération, mais il n'y a pas de difficulté à Manosque, il y a des besoins, mais en plus, il a deux fois 25 000 euros, 50 000 euros en deux ans pour l'aider à s'installer. Et donc, nous devons monter en puissance sur ce système. De la même façon, pour les gens qui travaillent à l'hôpital, nous devons les valoriser financièrement. Nous l'avons fait avec le Ségur de la santé. Les 3200 personnels soignants de notre département, par exemple, ont connu des augmentations significatives de salaire. Ça ne suffit pas pour rendre attractif. Et puis ensuite, il y a des contresens qui ont été faits. Il y a quelques années, on a décidé de créer la spécialisation de médecins urgentistes. Le problème, c'est que le médecin urgentiste, avant, mon frère a été médecin Manosque, il a été médecin urgentiste. On allait faire les urgences, il l'a fait à Avignon, il l'a fait dans le Var, et puis ensuite il a posé sa plaque de médecin généraliste. En créant la spécialisation de médecin urgentiste, vous n'avez plus la possibilité de déposer votre plaque comme médecin généraliste ensuite. Résultat, plus personne ne fait cette formation. C'était une fausse bonne idée. Et donc, on est aujourd'hui face à une situation où beaucoup ont quitté, notamment Manosque. Certains sont à la DIN, d'autres sont partis dans le privé par des boîtes d'intérim. Il y a des boîtes d'intérim qui facturent jusqu'à 4500 euros la journée d'un médecin qui intervient en intérim dans nos hôpitaux. Et donc, il faut sur ces sujets tout remettre à plat. Le président de la République à Cherbourg, il y a 15 jours, a confié au médecin Braun, président de SAMU de France, une mission en un mois pour qu'on voit comment toutes les bonnes pratiques sont possibles. Il est à Cherbourg parce qu'il y a des bonnes pratiques qui ont permis de réduire la situation de tension sur les urgences, et nous devons là-dessus investir massivement. Et je voudrais juste tordre le cou aussi à cette idée qu'on n'investit plus ou qu'on a supprimé des lits et qu'on n'investit pas dans la santé. Il faut avoir en tête que le budget de l'assurance maladie était, quand nous avons été élus en 2017, de 190 milliards d'euros. Il est aujourd'hui de 236 milliards d'euros. C'est une augmentation qu'on n'a jamais vue et elle ne suffit pas. C'est pour ça tout à l'heure que quand on parlait d'augmenter aussi le temps de travail, l'âge de la retraite et d'aller vers le plein emploi, c'est ça qui va nous permettre aussi d'investir massivement dans la médecine de proximité. À l'hôpital, mais aussi en ville, et il faut qu'on puisse revaloriser sérieusement la visite médicale du médecin généraliste, mais aussi des infirmières. On demande de faire ce qu'on appelle des pratiques avancées aux infirmières en les payant 4 euros de l'acte. Donc il faut aussi sur ces sujets valoriser ce travail, nous devons le faire, et nous devons le faire territoire par territoire, et nous voulons aussi, c'est une proposition d'Emmanuel Macron, qu'on ait des conférences territoriales qui associent tous les acteurs.
Quand les syndicats disent aujourd'hui il y a des fermetures de lits, vous dites aujourd'hui non, c'est faux, puisqu'il y a de l'argent qui a été mis en face.
En fait, c'est la différence, c'est qu'on a de plus en plus procédé en médecine ambulatoire. C'est-à-dire qu'on ne reste plus 3-4 jours pour un certain nombre d'opérations, on vient sur la journée. Et je vous le dis, il suffit de voir l'augmentation 46 milliards en 5 ans pour vous dire qu'on investit massivement dans l'hôpital. Mais je le dis avec modestie, ça ne suffit pas. Mais quand on investit à l'hôpital de Manosque, par exemple, pour résorber sa dette, on a mis 16 millions d'euros. Quand on crée, on vient de mettre 1 250 000 euros pour créer une unité de soins palliatifs pour dégager de la place au sein de l'hôpital pour faire encore monter l'hôpital de Manosque, nous agissons. Mais je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité. Je pourrais vous dire 12 milliards d'euros sont en plus pour les salaires des professionnels de santé à l'hôpital. 250 euros pour une infirmière. Mais franchement, je sais la difficulté des infirmières et j'aurais pas la vulgarité même de dire que c'est un cadeau qu'on leur a fait. C'est juste une petite amélioration, il faut aller plus loin encore.